Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, 8e année. La fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, un labyrinthe thérapeutique.
Bonsoir, merci d'être là pour ce cours qui nous permet de quitter les relations entre biographie, autobiographie et œuvre. Mais je souhaiterais, avec cette séance, aborder la question d'une des cartes postales dont j'ai eu l'occasion de vous parler en début d'année. Je vous disais qu'effectivement, il y avait l'histoire et la légende, et que la légende, elle fonctionnait avec un certain nombre de cartes postales. La première carte postale, on l'a déjà abondamment examinée, puisqu'il s'agissait de montrer que, contrairement à ce que Freud a dit, et à ce qu'on a dit de Freud ensuite, la psychanalyse n'était pas une science, mais qu'en fait, elle était une confession autobiographique. Deuxième carte postale, l'idée qu'il y aurait une espèce de continuum chez Freud et que, d'une certaine manière, il serait porteur de son génie très vite et très tôt et qu'il lui suffirait, un petit peu comme un fil d'Ariane, de suivre cette espèce de gros câble qu'il y aurait dans son œuvre qui montrerait effectivement que, porteur de son génie très tôt, il lui aura suffi de vivre, regarder, expérimenter un petit peu, lire, commenter, écrire. Et puis finalement, on arrive immanquablement à la psychanalyse parce qu'on ne peut pas ne pas y arriver. Moi, je propose autre chose, ce que j'avais appelé une contre-carte postale. Elle suppose simplement qu'on laisse de côté la légende et qu'on fasse véritablement de l'histoire, c'est-à-dire qu'on aille chercher des preuves dans les histoires personnelles, particulières, individuelles, d'où l'intérêt des correspondances, bien sûr, mais également qu'on aille chercher du côté de l'histoire générale. On n'est pas par hasard le fils de son siècle et on n'est pas par hasard un Viennois à l'articulation du 19e et du 20e siècle. Ça semble pourtant évident, mais pourtant, pendant des années, on a considéré qu'on n'avait pas forcément besoin de s'inscrire dans l'histoire personnelle ou dans l'histoire générale et qu'on pouvait entretenir une espèce de relation idéale avec les concepts. Moi, je vous propose une lecture qui, à l'inverse, est immanente et matérialiste et nous propose d'aller voir ce qui s'est passé dans l'œuvre du personnage, dans sa correspondance, dans ce qu'il aura écrit, publié, dans ce que d'autres auront également publié en sa compagnie, des psychanalystes amis, compagnons de route un temps jusqu'à ce qu'ils deviennent les ennemis, c'est souvent le cas chez Freud. Et je vais vous proposer donc cette contre-carte postale. À l'évidence, son œuvre est abondante, et à peu près 6500 pages, je vous ai dit une vingtaine de volumes dans la collection, dans l'édition des presses universitaires de France, et elle s'étale entre 1885-86 et sa mort 1939, donc c'est considérable. On peut effectivement considérer que tout est dit, tout se développe du début jusqu'à la fin, et puis on n'a pas besoin d'aller chercher très précisément la fabrication, voir comment se fabrique le concept, ou se fabriquent les idées, ou comment se fabrique la pensée de Freud. Moi, je suis allé voir très précisément en disant, voilà, on démarre avec le volume 1, puis on finit avec le volume 20, et puis on passe la totalité des livres à la moulinette, et on obtient un certain nombre de propositions. Donc, je ne propose pas un prélèvement, comme on fait souvent, c'est-à-dire que vous allez chercher ce qui vous intéresse dans l'œuvre, puis vous laissez le restant de côté. Et même si ça ne marche pas avec ce que dit l'œuvre de manière générale, eh bien vous aurez toujours une phrase, une citation, un aphorisme qui va vous donner l'impression que Freud a dit, puisqu'on a dit qu'il avait dit. Donc voilà, l'affaire est réglée, deux ou trois petites phrases qui sont comme autant de justifications de la carte postale qu'on vous propose. Par exemple, dans l'autoprésentation, et on aurait pu passer l'année entière sur cette question de l'autobiographie, de l'écriture de soi. Je vous ai dit que si le dieu de l'Université populaire nous prête vie et qu'on va jusqu'au bout de ce séminaire, dans 3 ou 4 ans encore, et qu'on a fini la question de la contre-histoire de la philosophie, on pourra aborder la question de l'écriture de soi chez les philosophes, de l'autobiographie, de la légende qui se fabrique dans les autobiographies, les confessions d'Augustin, les essais de Montaigne, un certain nombre d'ouvrages, Ecce Homo par exemple, de Nietzsche et quelques autres, qui sont des occasions théoriques de fabriquer une image à laquelle on consent la plupart du temps pour être tranquille, ça dispense d'aller voir très précisément. Donc effectivement, il y a un rôle important tenu par ce livre qui s'appelle « Autoprésentation, ma vie et la psychanalyse ». J'ai eu l'occasion de vous dire que c'était la nouvelle traduction, puisque je travaille sur la traduction de Nouvelles des Presses universitaires de France. Donc ce texte qui s'appelle « Autoprésentation », où il avoue à un moment précis qu'il veut vivre du traitement des maladies des nerfs. Il veut vivre du traitement des maladies des nerfs. Il dit, et ça c'est toujours lui qui l'écrit, on va mettre ça en perspective avec des correspondances, et vous verrez que les choses sont à affiner à la lumière des correspondances, ce sont les conditions matérielles qui m'incitèrent à entreprendre l'étude des maladies nerveuses. Et puis plus loin, si vous croisez ce texte théorique où Freud prend date sur l'éternité, et que vous allez voir par exemple une lettre à Martha, sa fiancée, qui deviendra sa femme rapidement, mais le 7 janvier 1885, il lui écrit qu'il court, alors ça c'est une citation, « après l'argent, après une situation et un nom ». Il le dit lui-même, il court après l'argent, après une situation et un nom. Il aspire à réaliser, on a eu l'occasion de voir ça, souvenez-vous, avec la question du roman familial, avec la question de l'imbroglio de la famille, recomposée, restructurée autour d'un vieux père qui lui se retrouve avec un fils qui a l'âge de pouvoir être le compagnon de la mère de Freud, enfin vous vous souvenez de cette histoire-là. Donc il y a tout cet imbroglio et la possibilité de sortir dans cette espèce de chaos identitaire, une espèce de petite lumière qui peut conduire la vie tout entière de Freud, puisqu'il y a ces fameuses prophéties, souvenez-vous, il n'est coiffé, l'espèce de poète du Prater, la voyante qui fait savoir qu'il sera ministre, enfin tous ces signes qui montrent que c'est l'enfant élu, choisi par sa mère, le petit garçon préféré, ce qui renvoie, je vous le rappelle, au petit texte qui analyse Poésie et vérité, le texte de Goethe, et il s'agit pour Freud de réaliser les prophéties de l'enfance, de l'adolescence, et de donner raison à sa mère. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail de ce qu'est une psychanalyse existentielle chez Sartre, mais Sartre appellerait ça un choix originaire, c'est-à-dire un moment donné dans votre existence où vous avez choisi quelque chose, la plupart du temps vous choisissez ce que les autres auront choisi de vous ou pour vous, et puis vous allez obtenir d'une certaine manière un thème, et votre existence, ce sera la variation, ce sera l'ensemble des variations à produire sur ce thème ou à partir de ce thème. Eh bien, le thème de Freud, c'est ça. Sa mère a décidé qu'il était génial, il sera génial. Il va se donner les moyens de l'être. Il souhaite une honorabilité familiale et bourgeoise, c'est pas plus compliqué que ça. Il veut s'installer, il veut pouvoir épouser Martha, il veut pouvoir avoir un bel appartement, un cabinet sympathique avec des gens qui vont, viennent et se font soigner chez lui. Et ce qui l'intéresse, c'est d'abord ça. C'est en permanence, dans la correspondance, qu'on retrouve ce désir clairement manifeste en disant qu'il veut de l'argent, un nom, une célébrité, une réputation, point la ligne. Il veut évidemment être célèbre, mais pas seulement célèbre à Vienne, c'est facile, enfin c'est plus facile que de l'être de manière internationale, il suffit d'avoir les réseaux, les copains, l'université, les professeurs, il le sait, il essaie de ce côté-là, mais ça ne marche pas, et il a très envie de s'y prendre autrement, et on verra comment il s'y prend. Dans cet ouvrage, l'autoprésentation, il y a bien sûr une légende. La légende, c'est que Freud s'en vient faire un cours sur l'hystérie et il a suivi les cours de Charcot à la Salpêtrière à Paris et il vient faire un cours sur l'hystérie chez les hommes. Et il y aurait eu un certain nombre de vieux barbons qui lui auraient fait remarquer que hystérie, ça vient du grec, ça renvoie à l'utérus et que jusqu'à de plus amples informations, il n'y a pas d'utérus chez les hommes et qu'on ne peut donc pas parler d'hystérie masculine. Ça, c'est la légende. Freud nous dit « je parle d'hystérie masculine » et il y a un certain nombre de vieux cons, pour le dire clairement, qui n'ont pas compris mon génie et qui m'ont interdit le laboratoire. Donc, quand on connaît un peu Freud, qu'on a lu l'œuvre complète, qu'on a lu les correspondances, qu'on voit comment il a la dent dure, comment il est capable de s'énerver longtemps sur un personnage qui se sera mis en travers de sa route, si vraiment il y avait eu des individus susceptibles de se mettre clairement en travers de sa route, qu'il l'ait mis à la porte d'un laboratoire, on aurait su qui, quand, comment, de quelle manière. On aurait eu un nom, un prénom, et on aurait vu réapparaître régulièrement dans l'œuvre complète le nom et le prénom de ce personnage ou de ces personnages qu'il aurait hypothétiquement mis à la porte du laboratoire. En fait, il n'est pas mis à la porte, mais la légende est intéressante, comme vous avez des espèces de poètes maudits, mais vous auriez des philosophes maudits, psychanalystes en l'occurrence, qui, parce qu'ils auraient découvert des choses géniales, eh bien, se seraient fait mettre à la porte ou interdit de laboratoire. Quand on fait un travail d'historien, on constate qu'il y avait dans l'Assemblée des individus qui effectivement trouvaient de la vieille école ou de la vieille génération que l'hystérie masculine, on ne pouvait pas en parler, mais d'autres qui trouvaient effectivement qu'on pouvait parler d'hystérie masculine, qu'ils avaient eux-mêmes soigné des cas d'hystérie masculine, enfin pas du tout ce que Freud nous dit. Ça ne s'est pas si mal passé que ça dans la conférence qui a été celle de Freud, où il nous donne l'impression que tout le monde se serait ligué contre lui parce qu'il aurait manifesté une thèse géniale et originale. La thèse n'était pas géniale, la thèse n'était pas originale, elle était déjà chez Charcot à Paris, elle était déjà chez Bernheim à Nancy, elle est chez un tas d'autres individus, Forel à Zurich, qui défendaient déjà cette idée-là. On va voir comment, sur l'ensemble de son trajet théorique, qui se confond avec un trajet de praticien aussi, il y a eu un certain nombre d'errances, si ce n'est d'erreurs, et on verra comment il s'arrange pour transformer toujours les erreurs en vérité ou en éléments qui sont susceptibles de contribuer à la vérité, puisque la vérité, c'est qu'il est porteur d'un génie qu'il suffit de développer le temps de son existence, donc à chaque fois qu'il se sera trompé, il ne se sera pas trompé, et je vais essayer de vous le montrer. Il y a donc une série de d'essais infructueux chez Freud, et longtemps, passé 50 ans, il est toujours en train de tâtonner, de chercher avec des essais qui coïncident, c'est-à-dire que pendant qu'il est dans une pratique, eh bien, il en essaie une autre, et puis pendant qu'il nous dit qu'il a découvert la psychanalyse, il essaie encore autre chose qui n'a rien à voir avec la psychanalyse, bien qu'il nous dise qu'elle soigne tout. Donc on va voir comment, sur la question de la cocaïne, sur la question de l'imposition des mains, balnéothérapie, électrothérapie, psychrophore, vous allez voir ce que c'est que ce truc assez effrayant, mais c'est assez sympathique de le voir apparaître dans le trajet intellectuel de Freud, le magnétisme, l'hypnose, la méthode cathartique et le divan. Voilà la proposition que je vous fais, elle est éminemment chronologique, c'est-à-dire que la cocaïne, c'est tout au départ de son existence, et puis le divan, bien sûr, c'est la fin. On commence donc avec cette histoire de la cocaïne. Souvenez-vous, j'avais eu l'occasion de vous parler de ce concept intéressant qui était le concept de cryptomnésie. Freud le met en avant, c'est pas lui qui en est l'inventeur, mais il en fait un bon usage, qu'oublie d'ailleurs les dictionnaires de psychanalyse la plupart du temps, c'est-à-dire comme par hasard on oublie ce concept extrêmement intéressant, parce qu'il permet de voir comment s'articule et l'autobiographie et le concept. La cryptomnésie signifie le fait que vous auriez pu peut-être un jour apprendre quelque chose, entendre quelque chose, lire quelque chose, mais que vous auriez oublié ce que vous auriez entendu, appris un jour, et que ça ressurgirait comme quelque chose dont vous pourriez croire que vous en êtes l'auteur ou l'inventeur. Il avait pris comme exemple, je vous le rappelle, le poème d'Empédocle sur la nature et la question vie et mort, pulsion de vie, pulsion de mort, instinct de vie ou instinct de mort. Et il nous disait qu'il y avait avec l'amour et la haine, chez Empédocle, eh bien, une espèce de chose embryonnaire qui lui permettait de construire son édifice, pulsion de vie, pulsion de mort. Cryptomnésie, nous dit-il. Donc on va voir comment ça fonctionne chez lui. Il lit beaucoup. Il ne nous dit pas évidemment ce qu'il lit, il ne nous dit pas non plus ce qu'il retient, et il cache évidemment en permanence ses sources. Technique habituelle, c'est-à-dire quand vous avez un philosophe qui vous hante, qui vous habite, qui vous imprègne et dont vous vous servez abondamment, mais évidemment la plupart du temps, cherchez dans l'index, vous n'aurez jamais son nom. Vous aurez en revanche le nom de gens qui ne sont pas très intéressants ou pas très utiles, mais ça permettra d'autant de masquer les références véritables. Donc il a lu un article banal dans une revue banale, un chirurgien militaire qui nous fait savoir qu'il a utilisé la cocaïne, substance dont on ne sait pas encore grand-chose à l'époque, et il la présente, cette substance, comme une panacée. Elle soigne tout, elle est extraordinaire, elle est fantastique, elle est merveilleuse, elle est formidable. Il écrit donc, quand il a lu ce texte, à Martha, sa fiancée, donc, hein, voilà, citation, hein, une aubaine pour pouvoir nous installer. Une aubaine pour pouvoir nous installer. C'est-à-dire qu'on voit bien cette obsession de Freud à s'installer, à trouver de l'argent, un cabinet en ville, dans un bon endroit, eh bien, permettra à Freud de réaliser son souhait, son désir. Il a toujours ce désir-là, pouvoir s'installer. Dans un autre texte, écrit par quelqu'un d'autre, il apprend que, enfin une hypothèse, il apprend que hypothétiquement, la cocaïne permettrait de soigner la morphinomanie. C'est-à-dire que vous êtes accoutumé à la morphine, et bien si vous utilisez de la cocaïne, ça supprimera votre addiction. C'est dit dans un texte, Freud y consent, et il associe ces deux textes-là, le chirurgien militaire qui a fait des essais de cocaïne sur ses soldats et qui trouve qu'ils sont extrêmement performants, qu'ils sont très au point. Regardez un certain nombre d'intellectuels, vous verrez dans quel état ça met, la cocaïne, parfois, quand ils sont sur un plateau de télévision. Je donnerai les noms après. Donc il considère que finalement ce sera une panacée et puis qu'on pourra avec ça soigner la totalité des médecines de la folie, pour le dire dans ce terme-là. Il en consomme beaucoup, personnellement, de 1884 à 1895. Et il le dit dans une lettre à sa fiancée, par exemple, quand il est à Paris, qu'il utilise de la cocaïne. Et je vous l'ai déjà dit, que Charcot l'invite chez lui, qu'il est un petit peu anxieux d'aller chez Charcot, et qu'il en prend de temps en temps, deux, trois doses, pour pouvoir être en forme. Il dit que c'est excellent d'un point de vue sexuel. Il écrit ça à sa fiancée alors qu'il est loin d'elle. Je vous laisse tirer les conclusions, etc. Il lui fait savoir que quand il reviendra, elle verra ce qu'elle verra. Et je ne sais pas si elle a vu ce qu'il annonçait, mais enfin voilà. De 1884 à 1895, on n'a plus trop de traces ensuite, mais au moins on peut assurer que pendant une dizaine d'années, il a été franchement cocaïnomane. À Flis, il écrit à Flis le 12 juin 1895, « J'ai besoin de beaucoup de cocaïne ». Et il dit les effets qu'il a constatés sur lui. Il constate que c'est euphorique, ça le porte au sens étymologique, euphorie, et que ça supprime sa mélancolie. Souvenez-vous, Ernest Jones, qui est un hagiographe, qui fait sa biographie, mais qui est une biographie hagiographique, nous dit qu'il souffrait d'une psychonévrose fort grave, et il considère effectivement que la cocaïne, ça supprime sa mélancolie, ça multiplie ses performances psychiques et physiques, et ça lui fait également disparaître son état dépressif. Il faut aussi considérer que l'usage de la cocaïne, alors je ne suis pas allé jusqu'à faire des essais, vous me croirez sur parole, mais je me suis renseigné sur des gens qui savent comment ça fonctionne un peu, et pour essayer mon hypothèse. Ça explique un usage de la cocaïne et un usage abondant, ça peut expliquer chez lui des jugements contradictoires et surtout sinusoïdaux. C'est-à-dire que vous avez une proposition théorique, elle est géniale, puis le lendemain, elle n'est plus géniale du tout, elle est même franchement nulle. Et j'ai cru voir que ça pouvait fonctionner pour un texte important qui est l'esquisse d'une psychologie scientifique. J'en dirai deux mots à la fin. C'est un texte qui a été longtemps introuvable, dissimulé, enfin un texte de 1895. C'est important d'avoir en tête les dates, parce que vous verrez que dans des périodes où il est dans un psychisme généralisé, une métapsychologie généralisée, il écrit des choses qui sont d'une radicalité matérialiste incontestable. Et il écrit à Flis le 20 octobre 1895, « Pendant une nuit de labeur, la semaine écoulée, la charge de douleur ayant atteint ce degré qui produit l'état optimal pour mon activité cérébrale, les barrières se sont brusquement levées, les voiles sont tombées, et l'on put tout pénétrer du regard, depuis le détail des névroses jusqu'aux conditions de la conscience. Tout semblait s'emboîter, les rouages s'ajustaient, on avait l'impression que maintenant, la chose était vraiment une machine et qu'elle fonctionnerait aussi d'elle-même prochainement. » Donc dans cette lettre-là, c'est un extrait, dans cette lettre-là, il dit « voilà, j'ai trouvé quelque chose de génial, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est formidable », et il propose une psychologie scientifique. Et puis, il écrit au même Flis, son copain, 4 semaines plus tard, hein, le 29 novembre 1895, « Je ne comprends plus l'état d'esprit dans lequel je me trouvais quand j'ai élucubré la psychologie. Je n'arrive pas à concevoir comment j'ai pu te l'infliger. » Donc on est dans la même année, 1895, on est à 4 semaines d'écart. D'une part, il a trouvé la panacée, la psychologie scientifique qui va lui permettre de guérir tout. Et puis d'autre part, il se demande comment il a pu proposer ça à son ami. À l'évidence, vous avez aujourd'hui encore des psychanalystes qui se servent de ce texte-là, logique du prélèvement dont je parlais tout à l'heure, pour considérer que effectivement, il y a eu des errances dans le symbolique, et que peut-être même Lacan aurait fait trop de mal à Freud sur ce terrain-là, et qu'il nous faudrait retrouver la voie de l'essai de psychologie scientifique. Quelques psychanalystes y sont essayés, et vous savez qu'il y a aujourd'hui des gens qui parlent de possibilités d'associer la neurobiologie, la neurophysiologie, et puis la psychanalyse, qui considèrent même que la neurobiologie aujourd'hui confirme les intuitions de Freud. Ça, c'est une parenthèse, mais pour vous dire qu'effectivement, certains se servent encore aujourd'hui de ce texte oublié. Oublié et ressorti, hein, enfin, puisqu'on en dispose depuis 2006, depuis l'édition de la correspondance à Flis. Parce que, singulièrement, cette œuvre ne fait pas partie des œuvres complètes. Ça fait partie des mystères. Enfin, mystère, vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas de mystère, mais que cette œuvre importante, ça fait une cinquantaine de pages, je crois, dans l'édition de Flis, eh bien, elle est dans une correspondance, et pas du tout dans une œuvre complète. Même si c'est un manuscrit, que ça n'a jamais été publié, on aurait pu imaginer qu'on puisse porter à la connaissance des lecteurs de Freud ce texte de 1895, afin qu'on puisse le mettre en perspective avec la pensée de Freud dans cette époque-là, dans ce moment de 1895. Si on lit les correspondances en ayant soin de pointer l'état physique de Freud, ce qu'on ne peut pas ne pas faire, si on est dans une perspective nietzschéenne, Nietzsche nous fait savoir que le corps est la grande raison, c'est le corps qui pense. Donc à l'évidence, tout ce qui concerne le corps dans la biographie est intéressant pour voir comment la raison fonctionne, comment la grande raison fonctionne. Eh bien, on découvre chez Freud un certain nombre de symptômes. J'ai appelé des copains médecins pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Effectivement, la fameuse arythmie cardiaque, l'irrégularité de la libido, avec plutôt des tendances au fiasco sexuel, des délires paranoïdes. Alors ça, c'est en permanence avec Adler, avec Jung, avec tous les psychanalystes qui ne sont pas complètement aux ordres ou pas complètement zélés. Toutes les paniques qui sont les siennes, elles sont nombreuses, ou ces fameux problèmes de nez. Il identifie le nez à l'organe sexuel. On a eu l'occasion d'en parler déjà, parce que c'est le grand dada de Fliss, de son ami William Fliss. Et toutes ces choses-là montrent effectivement que les symptômes physiques de Freud ont à voir, semble-t-il, avec une cocaïnomanie assez importante. Il extrapole son cas à la généralité, mais ça, je vous l'ai dit que c'était finalement la méthode de Freud. Il expérimente quelque chose, ça devient une vérité. Il est dans le performatif d'Austin, quand dire c'est faire, il dit ça a lieu. Donc il utilise de la cocaïne, il s'aperçoit qu'elle produit des effets extraordinaires, euphoriques, euphorisants, etc. Donc il conclut que la cocaïne, guérir toutes les névroses et soigner tous les états psychiques défaillants, et ce évidemment sans accoutumance. Freud fait savoir qu'il n'y a pas d'accoutumance à l'usage de la cocaïne. Pour ce faire, évidemment il passe à l'acte. Alors, ce sont des choses que vous ne trouvez évidemment pas détaillées dans les biographies hagiographiques de Freud, mais je souhaiterais vous parler de ce passage à l'acte qui concerne, au printemps 1884, un de ses amis, qui s'appelle Fleischl Maron. Et Fleischl est quelqu'un qui travaille dans un laboratoire, qui s'est infecté un pouce, on lui a coupé ce pouce, et comme souvent avec les gens qui ont connu des amputations, eh bien, vous avez des douleurs nerveuses, les terminaisons nerveuses qui ne sont pas au bout du doigt qui a disparu, comme d'aucuns le disent de temps en temps, mais qui restent évidemment dans les zones neuronales. Et Fleischl souffrait horriblement. Il avait commencé à utiliser un peu de morphine pour soulager sa douleur, et puis il y a eu une accoutumance à la morphine. Et Freud a décidé qu'il allait soigner son ami avec de la cocaïne, et qu'avec la cocaïne, il allait supprimer son addiction à la morphine. Il utilise, et on verra dans quelles conditions tout à l'heure, mais il utilise la cocaïne et il affirme qu'en 20 jours, en présence de témoins à la société de psychiatrie, en 20 jours, il a obtenu d'excellents résultats. Et quand on lit un texte qu'on a du mal à trouver, qui s'appelle « Sur la cocaïne », texte de 1885, il écrit, et je souhaiterais que vous vous souveniez de cette phrase-là, « Sans hésitation, je conseillerais d'administrer la cocaïne par injection. » Donc la proposition est simple. Freud dit à son ami Fleischl qu'il va le guérir de sa morphinomanie par des injections de cocaïne. Il nous dit que c'est comme ça qu'il a pratiqué et qu'il a considérablement amélioré les symptômes de son patient, néanmoins ami. La dépendance à la morphine aurait disparu et il nous dit que ce fait, et c'est trouvable dans ce texte, si vous le retrouvez, si on le retrouve aujourd'hui, on peut le retrouver, avec la cocaïne, donc on va pouvoir soigner, nous dit Freud, dépression, mélancolie, hystérie, hypochondrie. Alors que Freud sait que ça ne marche pas. Il le sait, il sait que la cocaïne ne soigne pas de la morphinomanie, qu'elle ne guérit pas de la morphinomanie et qu'elle n'a pas obtenu les succès qu'il prétend avoir obtenus avec elle en moins de 20 jours. Il le sait parce qu'il va rendre visite à son ami à l'hôpital et il constate que ça a aggravé le cas de Fleischl Maron. Il a constaté des convulsions, des agitations, des excentricités, des insomnies, des abattements, du délirium, des hallucinations, des états de confusion, de détresse, des envies de suicide. Voilà, pour quelqu'un qui va mieux, ça pourrait aller mieux. On peut imaginer qu'après tout, ce sont des fictions, que je m'appuie sur des commentaires. Eh bien, vous avez une lettre à Martha, l'épouse, donc, datée du 12 mai 1884. Il écrit « Avec Fleischl, les choses vont si mal que je ne puis me réjouir d'aucun succès. » Donc c'est l'individu qui vous fait savoir dans un congrès qu'il a soigné un individu en 20 jours et qu'il a réglé le problème, qui fait savoir dans une correspondance privée à sa femme que les choses vont si mal qu'il ne peut se réjouir d'aucun succès. Pas mieux faire comme type d'aveu. Je voudrais mettre ça en perspective avec une lettre à Fliss, qui est une lettre intéressante aussi, parce qu'on voit toute sa méthode et on voit comment il aura construit toute cette affabulation et justifié cette affabulation. Le 8 décembre 1895, on est dans la même année. Et on peut imaginer qu'on est dans les mêmes eaux intellectuelles et que ce genre d'expérience produit ce genre de thèse ou de théorie. il écrit à son copain, on ne peut se passer, citation, hein, on ne peut se passer de ceux qui ont le courage de penser du nouveau avant de pouvoir le démontrer. Donc Freud fait savoir que le réel peut bien résister, mais le réel, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut, lui, c'est ce qu'il désire. Le désir de Freud, c'est la réalité. Et si le réel résiste au réel de Freud, c'est le réel qui a tort. Et il faut se débarrasser de ce réel parce qu'il a considéré que la cocaïne soignait, guérissait, il a écrit ça dans son ouvrage sur la cocaïne, c'est une publication, elle existe, on la trouve en revue à cette époque-là, la chose est clairement dite, sauf que son copain se suicide. 5 ans plus tard, Freud écrit dans l'interprétation des rêves qu'il est mort d'avoir pratiqué, d'avoir utilisé la cocaïne par injection, alors qu'il lui aurait conseillé l'ingestion. En gros, il a rien compris à la prescription. Freud a bien raison de dire que la cocaïne soigne, et elle n'est pas coupable d'avoir entraîné le suicide de son ami. C'est simplement lui qui n'a pas compris qu'il ne fallait pas se faire ça en piqûre, il ne fallait pas injecter par piqûre la cocaïne, mais qu'il fallait l'ingérer. Donc il n'a pas compris. De sorte qu'il écrit dans l'interprétation des rêves, il parle de, citation, hein, son malheureux ami qui s'était empoisonné à la cocaïne. Qui s'était empoisonné à la cocaïne est en italique dans le texte même de Freud. C'est Freud qui met des italiques au cas où on n'aurait pas vraiment compris. Et il ajoute, je lui avais conseillé l'utilisation par voie interne, oralement, pendant que la morphine lui était retirée. Mais il s'était une fois administré des injections de cocaïne. Et un petit peu plus loin, comme je l'ai dit, je n'avais jamais songé qu'on pût prendre la drogue par injection. Je vous rappelle, hein, la phrase, sur la cocaïne, 1885, sans hésitation, je conseillerais d'administrer la cocaïne par injection. 1900, l'interprétation des rêves, comme je l'ai dit, je n'avais jamais songé qu'on pût prendre la drogue par injection. Quelque temps plus tard, on découvre effectivement le poteau rose, et Freud organise la destruction des preuves. Évidemment, il y a un texte qui fait savoir que ce que je viens de faire, je viens de vous lire sur la cocaïne où il dit « injection », un autre texte qui, 5 ans plus tard, nous dit « non, 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 pas injection, mais il faut consommer autrement, oralement », eh bien, il organise la destruction des preuves. C'est-à-dire que dans ses bibliographies, le texte sur la cocaïne disparaît. À l'époque, il veut rentrer à l'université, il fait des CV, et dans le CV, ce texte-là disparaît bizarrement. Je voudrais vous donner une explication psychanalytique de ce qui a eu lieu, parce qu'effectivement, quand on a découvert ce genre d'informations, on a sollicité les historiens, les biographes, les freudiens, les freudolâtres, enfin tous les gens qui sont dans la logique de la légende. Et alors, il y a un psychanalyste qui explique que c'est l'inconscient de Freud qui lui joue des tours. Et que si, de fait, quand il recopie sa bibliographie, le texte sur la cocaïne disparaît, eh bien, c'est parce que son inconscient veut préserver son ami mort. Pour la bonne raison qu'une seringue n'est pas une seringue, mais que c'est un phallus. Et que c'est la logique de Freud. Je vous ai toujours dit qu'une chose n'est jamais ce qu'elle est, mais ce que Freud veut qu'elle soit. Donc si vous avez une seringue qui est en jeu dans cette aventure, à l'évidence, ça ne peut pas être une seringue. Et vous vous trompez rarement en disant que c'est un phallus. Phallus, vagin, vous avez 99% de chance pour avoir la bonne correspondance chez Freud. Donc le psychanalyste fait savoir que l'inconscient de Freud lui joue des tours parce que finalement, il a souhaité épargner son ami mort et qu'il n'avait pas envie, effectivement, d'utiliser avec lui son phallus comme l'autre avait utilisé la seringue, si vous voyez ce que je veux dire. On peut trouver d'autres explications tout de même. Toujours est-il que Freud démarre dans la carrière avec cet épisode de la cocaïne qui montre effectivement que, comme le dit cet extrait de lettre à Fliss, que l'important n'est pas forcément que ça marche, mais qu'on aille dans la bonne direction. Il faut avoir le courage de penser, et puis on prouvera ça peut-être un petit peu plus tard. Il quitte la cocaïne pour passer à l'électrothérapie. Le cabinet est ouvert en 1886, pour information. Pendant 4 ans, donc jusqu'en 1890, il pratique cette technique-là. L'électrothérapie, qui est une vieille chose, ça renvoie à la galvanothérapie, la franklinisation, le choc électrique, les électrochocs, les secousses voltaïques. Enfin, si vous regardez une histoire des traitements de la folie, eh bien, vous vous apercevez que cet arsenal date d'à peu près un siècle et demi au moment où Freud s'en sert. Alors, il parle du traitement galvanique. À Fliss, il dit qu'il pratique le traitement galvanique, 24 novembre 1887. Il envisage de publier sur ce sujet, fini la cocaïne, et il pense que l'électricité soigne. La vieille logique de l'électrochoc. Le matériel coûte cher, et c'est un confrère qui lui propose de lui fournir ce qu'il faut utiliser dans le cabinet. Un petit peu plus tard, dans Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, c'est le deuxième texte, c'est le second texte de géographie personnelle, autoprésentation plus ce texte-là, c'est là que Freud écrit sa propre légende. Alors il transforme cette période qui est tout de même pas très glorieuse en période dans laquelle il pratiquait, citation, une thérapie fondée sur la physique. C'est mieux quand même de dire qu'il pratiquait une thérapie fondée sur la physique plutôt que de dire qu'il envoyait l'électricité dans le corps de ses patients. Un petit peu plus tard, on verra comment il utilise les erreurs pour en faire des moments nécessaires dans l'accès à la vérité, une grande façon de procéder très hegelienne. La négativité a toujours un sens et elle permet de déboucher un jour sur la positivité. C'est comme ça que nombre de philosophes ont justifié les camps de concentration soviétiques pour légitimer l'avènement du bonheur sur Terre. Et la négativité des errances de Freud, eh bien, ça suppose que de toute façon, un jour, tout ça conduira à la naissance de la psychanalyse. La preuve, il nous dit, les succès du traitement électrique dans les troubles nerveux étaient des succès de la suggestion. Donc vous verrez, finalement, il utilise l'électricité, ça ne soigne pas, mais quand ça soigne et que ça peut guérir deux ou trois personnes, c'est parce qu'il y a eu un effet de suggestion. Donc ça le conduit tout naturellement à découvrir un certain nombre d'autres théories. La légende nous dit que c'est ainsi qu'il va vers l'hypnose et puis que l'hypnose le conduira vers la psychanalyse en 1896. Il quitte l'électrothérapie parce que ça ne marche pas très bien et qu'il a l'impression qu'il faut aller voir d'un autre côté. Et alors, je trouve quelque chose d'assez étonnant, toujours dans une correspondance. Il n'y a évidemment que dans la correspondance qu'on trouve une chose pareille, c'est-à-dire que vous chercherez en vain la présence d'un psychrophore dans l'œuvre complète de Freud. Mais je vous renvoie une lettre à Ludwig Binswanger, 9 avril 1910, c'est une lettre intéressante. Binswanger est un philosophe intéressant aussi, lui, puisqu'il était un husserlien, phénoménologue, et qu'il a essayé d'associer phénoménologie et psychanalyse. C'est une espèce de philosophie assez intéressante, qu'on n'utilise pas beaucoup en France, et vous avez deux personnes qui s'en sont pourtant bien servies. Ils ne sont pas allés forcément très loin dans cet usage-là, mais vous avez eu Sartre, pour la psychanalyse existentielle, l'un des chapitres de L'être et le néant, puis les autres livres, Baudelaire, le Saint-Genest, comédien et martyr, et puis L'idiot de la famille, et puis un certain Michel Foucault. Le premier Michel Foucault a travaillé sur l'analyse existentielle de Binswanger, qu'il a même traduit en français. Donc on est en 1910, et Freud nous fait savoir, 1910, hein, c'est-à-dire que là, la psychanalyse, ça fait normalement, depuis 1896, la psychanalyse soigne et guérit. Depuis en 1910, il a publié « La méthode psychanalytique de Freud » en 1904. Il a publié l'année suivante « De la psychothérapie ». L'année même où il conseille le fameux psychrophore, 1910, il écrit « Perspective d'avenir de la thérapie analytique » et il nous explique que la psychanalyse, ça soigne, ça guérit. Il écrit même un texte qui s'appelle « À propos de la psychanalyse dite sauvage » dans lequel il détaille le rituel, la séance, les honoraires, la méthode d'association libre, etc. On aura l'occasion de revenir sur ce texte-là, qui est un texte majeur, dans le moment où on abordera ce que j'ai déjà signalé comme étant les ressorts du divan, c'est-à-dire ce qui se passe sur le divan et comment ça marche. C'est ce texte-là qui nous permettra de voir un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que, alors qu'il a derrière lui un nombre considérable de textes qui nous expliquent que la psychanalyse existe, qu'elle a été inventée en 1896, qu'elle soigne et qu'elle guérit, eh bien, il propose pour soigner un patient qui lui est proposé par Binswanger et qui souffrirait de dépression mélancolique, c'est le diagnostic. En gros, c'est un masturbateur effréné, c'est quelqu'un qui... Enfin, effréné, je ne vais pas aller voir, mais Freud estime que c'est beaucoup trop, et Binswanger aussi. Voilà quelqu'un dont le grand mal est de se masturber. Eh bien, pour le soigner, on utilise le psychrophore, qui est une... Alors, citation, hein, c'est l'écriture de Freud, là. C'est une cure par sonde ou psychrophore pour calmer l'onanisme du patient. Donc vous rentrez dans l'urètre, une sonde, un cathéter, et vous sondez tout ça, parce que dans la canule creuse ensuite, vous faites passer de l'eau glacée ou de l'eau froide, et ça va vous calmer vos ardeurs. Paraît évident, je vous le conseille, si vous voulez. En 1910, il a utilisé un nombre considérable de pages pour faire la démonstration que la psychanalyse soigne, guérit. Il considère que quand vous avez un masturbateur rétif, eh bien, il faut lui sonder la verge avec un matériel effrayant et envoyer un peu d'eau froide et que ça va le calmer. C'est tout de même assez étonnant, 1910. On ne s'étonnera pas que quelque temps auparavant, il ait conseillé la balnéothérapie ou le thermalisme, Il y aura des choses à dire aussi sur ce genre de pratique, la guérison par l'eau. Dans l'autoprésentation, volume 17, 63 pour ceux qui doutent, il était question d'envoyer quelqu'un dans un établissement d'hydrothérapie après une unique consultation. Enfin, il considérait qu'envoyer quelqu'un dans un établissement d'hydrothérapie après une unique consultation n'était pas une source de revenus suffisante. Ça ne rapporte pas assez l'eau tiède, l'eau claire ou l'eau froide. Donc il renonce. On arrive à l'hypnose. Et c'est là que ça prend une forme plus intéressante pour la légende. On nous fait savoir qu'effectivement, il y a des hypnotiseurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de Charcot, de Bernheim. Je vous ai parlé de Forel, Auguste Forel, qui est un personnage extrêmement important, qui lui s'occupait de l'asile de Zurich et qui est à l'origine de l'invention du mot français psychanalyse. Freud, comme vous le savez, on a eu l'occasion d'en parler au moment de la biographie, a suivi les démonstrations de Charcot à la Salpêtrière. Charcot lui a pratiqué 30 ans à la Salpêtrière et Freud, peu de temps, en fait, 4 mois, entre le 13 octobre 1885 et le 28 février 1886, et il n'est question que d'hystérie. C'est pas compliqué, dès que vous avez un problème chez Freud, diagnostic hystérie. Traitement de l'hystérie, vous vous allongez sur le divan, papa, maman, le triangle édipien, vous avez désiré vous unir à votre mère, vous vouliez vous assassiner votre père, etc. C'est normal, on soulève le lièvre et puis les choses disparaissent et puis vous êtes guéri. On est dans cette logique-là, l'hystérie, elle est la grande maladie de ce siècle. Il se fait qu'on ne parle plus d'hystérie aujourd'hui, on en parle de manière générale, on traite d'hystérique pour insulter les gens. Mais le diagnostic hystérie, il est quand même assez réduit. Et d'aucuns, qui sont plutôt des historiens de la médecine, font savoir que ce qu'on ne parvenait pas à diagnostiquer par manque de moyens techniques, l'imagerie d'aujourd'hui par exemple, eh bien on l'appelait hystérie. C'est une espèce d'étiquette facile pour dire on a des gens qui ont des problèmes neuronaux, des problèmes du cerveau, des problèmes de l'encéphale, eh bien hystérie à chaque fois, hystérie. Et Charcot prétendait soigner l'hystérie avec cette technique de l'hypnose. On hypnotise des individus, on leur suggère un certain nombre de choses. La suggestion permet la conscientisation du traumatisme. La conscientisation du traumatisme lève les traumatismes et libère et guérit. C'était ce que disaient à l'époque les gens qui pratiquaient l'hypnose. Et Freud s'y met, tout en pratiquant en même temps l'électrothérapie. C'est-à-dire que à quelqu'un qui, là je vous présente les choses dans une espèce d'ordre chronologique, mais en même temps qu'il est dans l'hypnose, il continue à envoyer des décharges d'électricité. À Fliss, il écrit le 28 décembre 1887, « Je me suis mis à l'hypnose et je suis parvenu à toutes sortes de succès, petits mais remarquables. » Il ajoute « J'ai en ce moment, allongé devant moi, une dame sous hypnose et je puis donc tranquillement continuer à écrire. » Intéressante cette phrase. On comprend qu'Anna Freud n'ait pas eu envie que la correspondance avec Fliss soit mise à la disposition du public. On aura l'occasion de revenir sur cette technique qui permet effectivement soit au patient de dormir, soit éventuellement au psychanalyste de dormir, avec un concept qui s'appelle l'attention flottante et qui a l'avantage de mettre Jacqueline Miller en colère quand je l'utilise. Mais on aura l'occasion de revenir sur l'attention flottante. J'espère que vous ne vous endormirez pas quand je vous en parlerai, parce que c'est un concept cardinal, me semble-t-il. Il a du mal à hypnotiser vraiment, Freud, ça ne marche pas, et ça ne marche pas tout le temps. Mais il écrit toujours à Fliss, le 4 février 1888, que le nom de Charcot contribue à remplir son cabinet. Donc c'est pas mal, on se sert du nom de Charcot. Je vous ai dit que les leçons de la Salpêtrière étaient représentées en gravure et que c'était accroché dans son cabinet, que quand il est rentré de la Salpêtrière, effectivement, il avait demandé à Charcot la possibilité de traduire des textes de lui et de les annoter. Il se fait qu'il essaie exactement la même chose avec Bernheim, qui est pourtant une espèce d'opposant. Vous aviez deux écoles, l'école de Paris, l'école de Nancy, avec un Charcot qui pensait qu'on ne pouvait hypnotiser véritablement que les hystériques, et seulement eux, et Bernheim qui considérait qu'on pouvait hypnotiser tout le monde, y compris les hystériques, mais tout le monde. Et Freud considère effectivement que c'est plus intéressant d'aller voir Bernheim que Charcot, parce que lui, il a envie d'hypnotiser tout le monde et que c'est toujours difficile de prendre de l'argent à des gens qui vous disent « dormez, je le veux » et qui ne s'endorment pas. Donc, il renonce à l'hypnose, évidemment, parce que ça ne marche pas bien. Et à partir de ce moment-là, eh bien, comme les raisins de la fable de La Fontaine, magnifique petite fable, ces raisins sont trop verts, parce qu'on ne parvient pas à les attraper, il fait savoir que finalement, il y a un caractère mystique, le mot est de lui, et ça a toute sa saveur, qu'il y a un caractère mystique à l'hypnose et qu'il faut passer à autre chose. Il passe à autre chose, l'imposition des mains, grand moment, extrêmement intéressant aussi, où il nous fait savoir que parler, ça ne suffit pas, donc il va falloir toucher, tripoter. On appelle ça l'aptonomie aujourd'hui. Et donc, il s'en va voir Bernheim et il essaie de voir un peu comment ça fonctionne en 1889. Et puis, il traduit de la suggestion et de ses traitements thérapeutiques comme il avait traduit précédemment Charcot. C'est une bonne technique pour flatter l'ego des gens qu'on a envie de se mettre dans la poche. Et alors, il écrit, Freud, dans ses études sur l'hystérie avec Breuer, puisque c'est un texte qui est signé avec Joseph Breuer, il préconise le massage de l'utérus. Ah oui, hein, vous allez voir. Alors, il théorise le geste, mais il laisse faire ça aux praticiens. Citation donc, tome 3, page 95 pour les sceptiques. « Un de nos gynécologues les plus en vue, qui par massage lui redressa l'utérus, si bien qu'elle demeura plusieurs mois exempte de tout mot. » Donc ça marche. Mesdames, si vous voulez vous faire masser l'utérus, trouvez des freudiens et vous verrez, ça marche. C'est dans le même texte que, dans la même époque, que Freud nous parle déjà de patientes allongées sur le divan. Donc, quand il nous fait savoir qu'effectivement, il y a des dates pour la naissance de la psychanalyse, il n'a pas envie de faire savoir qu'au moment où il pratique l'hypnose dans la grande tradition de Charcot et de Bernheim, eh bien, il allonge déjà ses patients et qu'on est déjà dans la psychanalyse. On est déjà dans la pratique de la psychanalyse, qui est une façon tout à fait particulière d'habiller le vieux traitement hypnotique du moment. Il y a le cas de Miss Lucy R., qui, elle, résiste à l'endormissement. Et donc, c'est toujours un peu problématique. Donc, il met au point cette technique de l'usage du corps de l'autre, le fait qu'on puisse toucher le corps de l'autre ou utiliser une partie de son propre corps. Et il considère qu'il faut approcher un doigt des yeux du malade, annoncer qu'il va dormir, puis ça ne marche pas. Donc, effectivement, il passe à ce moment-là à l'ajout d'un contact physique pour les, citation, pour les obliger à communiquer. C'est-à-dire qu'il considère qu'en touchant avec une pression particulière, eh bien, il va faire surgir ce qui se cache. Citation, c'est toujours Freud qui parle. « Je posais les mains sur le front du malade ou prenais sa tête entre mes deux mains et disais « Cela va vous venir à l'idée maintenant sous la pression de la main. À l'instant où j'arrêterai la pression, vous verrez quelque chose devant vous ou quelque chose vous passera par la tête. Une idée qui vous viendra et cela, vous l'attrapez. C'est cela que nous cherchons. » Donc, il nous dit qu'il avait des résultats à chaque fois. On n'a pas les moyens de vérifier que ça se passait comme ça. Toujours est-il que ce qu'on peut constater, c'est que la psychanalyse, elle est déjà là tout entière. C'est-à-dire que ces techniques d'allongement sur un divan, une invitation à la décontraction, on verra très précisément ce qu'il appelle la décontraction, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dormir, mais être éveillé, mais être dans un état presque proche de l'endormissement, solliciter verbalement. Il nous dira Freud à un moment très précis, quand il définira la psychanalyse, que la psychanalyse, c'est un échange de paroles, point, à la ligne. La psychanalyse, c'est un traitement par l'échange de paroles, c'est la définition qu'il en donne. Donc on sollicite ici verbalement. Et puis là, il ajoute cette technique particulière, qui est évidemment l'occasion de voir qu'on est en pleine suggestion, en pleine sollicitation du patient. Vous tenez sa tête entre vos mains, et puis au moment où vous faites une pression, eh bien, vous suggérez que quelque chose va venir, va advenir, et à l'évidence, il y a probablement des moments où il y a avènement d'un souvenir caché. Et nous dit Freud, disparition du symptôme et guérison du simple fait que les choses se soient passées comme ça. On a donc le schéma de la psychanalyse. On s'allonge, on se décontracte, on parle. Il arrive, alors on oublie la question du toucher, mais arrive un moment où effectivement on met le doigt sur ce qui pose problème. Ce qui cause le traumatisme, les symptômes disparaissent et la guérison surgit juste à ce moment-là. Donc voyez comment, et là on est presque à la psychanalyse, donc voyez comment cocaïne, électrothérapie, balnéothérapie, thermalisme, psychrophore, etc., enfin toutes ces choses-là se mélangent, et ce pendant un quart de siècle de consultation tout de même. C'est-à-dire que Freud mélange un petit peu tout ça entre l'âge de 28 et de 54 ans. C'est-à-dire que si vous prenez les dates, la cocaïne 1885, l'électrothérapie 86-87, bain thermalisme, hydrothérapie à peu près à la même époque, hypnose 85, imposition d'humain dans la foulée, le fameux psychrophore, c'est tout de même en 1910. Et alors que là, normalement, la psychanalyse, elle est totalement au point, puisqu'il nous fait savoir qu'en 1896, c'est Freud qui nous le dit, en 1896, la psychanalyse, elle est au point. Après, il faut préciser la nature des concepts, il faut aller voir comment ça fonctionne, il faut élaborer ce qu'il appelle la métapsychologie, ce sera l'occasion du cours suivant. Mais vous voyez comment tout ça se mélange, comment il cherche, ne trouve pas forcément et se retrouve évidemment dans des errances considérables. Donc la légende, je vous le disais, c'est le continuum idéologique. Vous avez un personnage qui sait ce qu'il va trouver, donc qui cherche à peine, puisqu'il a déjà trouvé quasiment, et qui se contente d'accumuler les preuves qu'il est dans le bon sens, qu'il est dans la bonne direction, et que tout va bien vers la naissance de la psychanalyse. Ça, évidemment, c'est quand on a trouvé, entre guillemets, la psychanalyse, et qu'on peut écrire l'histoire, c'est-à-dire donner sa propre version. Je vous renvoie aux deux textes dont je vous parlais, fondateurs de la légende, hein, 1914, Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, et 1925, L'autoprésentation. À l'évidence, il n'y a pas une ligne qui soit consacrée à la question de la cocaïne dans ces deux ouvrages-là, et nulle part ailleurs. L'électrothérapie, on ne peut pas dire qu'il a envoyé des décharges électriques dans le derrière de ses patients, donc il nous fait savoir qu'elle lui apprendra la suggestion. Donc c'est toujours nécessaire, nous dit Freud, peut-être des mauvaises langues comme moi pourraient imaginer qu'il est dans l'errance, qu'il invente, qu'il fait un peu n'importe quoi, mais Freud nous dit non, je découvre quelque chose d'essentiel pour la psychanalyse, je découvre la suggestion. Évidemment, le thermalisme, ça disparaît également de l'œuvre complète. Et puis là où il y a du ratage dans l'hypnose, il nous fait savoir que ce n'est pas tant ratage que ça, que l'hypnose a un aspect un peu mystique, et que, évidemment, Freud ne saurait être un mystique. C'est un scientifique, donc évidemment, il condamne tout ce qui peut être mystique. Mais elle lui apprend la résistance. Et donc, la résistance, ce sera un grand moment de la psychanalyse, un grand moment de verrouillage sophistique aussi de la psychanalyse, parce que la psychanalyse, ça marche tout le temps. Et quand ça ne marche pas, eh bien, c'est la résistance, et la résistance, c'est de votre faute. Mais ce n'est pas la faute de la psychanalyse. Ça prouve simplement que la psychanalyse avait raison, puisque la résistance est forte. Donc, dans tous les cas, Freud considère que la vérité, elle est effectivement dans sa méthode. S'il y a une vérité du trajet, on peut imaginer qu'effectivement, de la cocaïne jusqu'à la psychanalyse, il y a effectivement des gens qui se seront trouvés guéris, soignés, qui se seront trouvés mieux, comme d'aucuns, après avoir bu un verre de l'eau de la grotte de Lourdes. Ce n'est pas forcément la preuve que Dieu existe, vous avez vu, il y a des béquilles à l'entrée de Lourdes, ça veut dire qu'il y a effectivement des gens qui, avec un verre d'eau de la source, sont repartis sur leurs deux jambes. Ce n'est pas la preuve de l'existence de Dieu, c'est la preuve qu'effectivement l'effet placebo existe. Et de fait, il y a des guérisons possibles avec à peu près tout, magnétisme, etc., enfin tout un tas de choses qui vous permettent de dire que vous allez guérir et d'obtenir un certain nombre de résultats. Ce n'est pas en quantité importante, mais suffisamment pour qu'on puisse entretenir un doute. Je voudrais vous dire aussi que dans cette perspective du Capharnaüm, plutôt que du continuum, il faut voir comment Freud va hésiter, et ce, pendant toute son existence, entre ce que j'appellerais le corps somatique ou le corps glorieux. Le corps somatique, c'est le corps corporel, pour le dire comme ça, c'est le corps qui renvoie au soma. Et le corps glorieux, ça renvoie, c'est pas lui qui utilise l'expression, hein, c'est saint Augustin. Le corps glorieux, c'est le corps que nous sommes censés recouvrer, ou pas recouvrer, mais obtenir après le jugement dernier. C'est-à-dire un corps qui n'est pas un corps, un corps qui voit sans les yeux, un corps qui touche sans la main, sans la peau, sans etc., un corps qui se nourrit sans manger, enfin le fameux corps des chrétiens, après le jugement dernier. Et il hésitera toujours, Freud, entre un corps somatique, plasma germinal, la question du corps, de la biologie, du soutènement de la biologie, de la totalité de ses propositions, et puis la fameuse métapsychologie. Et le grand écart est important puisqu'il se fait sur 70 ans, les 70 années qui séparent l'esquisse dont je vous ai parlé tout à l'heure, esquisse d'une psychologie scientifique, 1895, et puis un texte final extrêmement intéressant qui s'appelle « L'analyse finie et l'analyse infinie ». 1937, c'est-à-dire on est dans les derniers temps de la vie de Freud, et ces deux textes-là donnent l'impression de se rejoindre, une espèce de pont par-dessus la totalité de l'œuvre qui constitue la fameuse métapsychologie, et parce que les deux textes nous font savoir qu'il y a de la biologie et qu'il n'y a que de la biologie. C'est-à-dire que dans le premier texte, Freud nous propose une lecture radicalement matérialiste, et dans le dernier texte, il fait à peu près la même chose. Je vais revenir un petit peu sur ce sujet un petit peu plus tard, dans quelques secondes. Et puis il y a cette idée du corps glorieux, qui lui renvoie donc à ce que j'appelle, à la construction, à l'espèce de fiction chrétienne, qui lui renvoie à la métapsychologie. La métapsychologie, elle est définie par Freud sur le principe de la métaphysique. Vous connaissez l'histoire, c'est une anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est intéressante parce qu'elle fait sens, d'un Aristote qui a écrit sur tous les sujets, politique, éthique, sur l'histoire des animaux, sur la rhétorique, sur le ciel, sur les météorologies, etc. Il a écrit sur tous les sujets. Et puis, il reste un livre qu'on n'arrive pas à classer. Il a écrit sur la physique aussi. Un livre qu'on n'arrive pas à classer, qu'on met après la physique, métaphysique. Et cette discipline, classée là, parce que finalement, on ne savait pas où la classer, donc après la physique, elle rend possible cette métaphysique. La métapsychologie, c'est la même chose. Vous avez une psychologie, c'est la science de la psyché, la science de l'âme, et puis quand vous avez ça, eh bien vous avez au-delà de ça une métapsychologie. Et on entrera dans le détail de ces choses-là, on verra ce qu'est la métapsychologie freudienne, et c'est l'ensemble de son discours. Un petit texte qui s'appelle Métapsychologie, justement, qui regroupe un certain nombre de textes, et puis d'autres ouvrages, notamment Au-delà du principe de plaisir, qui sont très constitutifs du conceptuel freudien et de cette fameuse métapsychologie. Donc, un personnage qui, d'une part, nous parle d'une psychologie scientifique au début de son existence, 1895, c'est en même temps le moment où il pratique l'imposition des mains. Donc souvenez-vous qu'on se retrouve avec un personnage qui est dans la radicalité biochimique et qui en même temps fait des pressions sur la tête des patients qui sont les siens pour obtenir la libération de ses symptômes, et le personnage qui en même temps table sur la métapsychologie. Et on voit cette espèce d'ambivalence permanente chez Freud. Dans l'esquisse d'une psychologie scientifique, je passe rapidement là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps d'entrer dans un détail qui est hyper technique, et je vous le disais, sous, me semble-t-il, l'effet de la cocaïne. Donc il faut accepter la construction de Freud. Il nous dit qu'il y a trois types de neurones, phi, psi et mu, des noms grecs. Hein. Neurones phi qui, eux, réceptionnent les stimuli, neurones psi qui transmettent les stimuli, et les neurones mu qui les font affluer à la conscience. Ce sont trois neurones distincts, mais pourtant de même structure. À l'évidence, c'est une fiction de Freud qui pose d'un seul coup qu'il a besoin de ces trois types de comportements du psychisme et qu'il associe à ces trois comportements du psychisme ou à ces trois opérations susceptibles d'être faites dans le psychisme des neurones dont il dit qu'il va les appeler psy, phi et mu. Il nous dit que ces neurones entretiennent des relations économiques de gestion des flux nerveux. Et là, je passe rapidement là-dessus pour que vous voyez un petit peu le type de vocabulaire. Il nous parle d'investissement quantitatif, de transfert de qualité, de quantité d'énergie, qu'il appelle Q, la lettre. Je me suis tuyauté auprès d'amis germanistes, mais on ne peut pas faire de jeu de mots avec... ça ne veut dire que Q, hein, ça ne veut pas dire autre chose. Il nous parle de stimulation d'énergie, d'interaction excitante, de conjonction de quantité, de processus de déconduction, de décharge de tension psychique, d'excitation, de substitution, de conversion, de décharge, etc. C'est comme ça pendant la totalité du développement. Donc on a affaire à une espèce de description mécanique. C'est une topique, comme il y aura une topique psychique par la suite, mais c'est une topique ultra-mécanique qui nous donne l'impression d'être très conceptuelle et en même temps très biochimique. À l'évidence, ça se trouve aux antipodes de, souvenez-vous, le meurtre du père, du banquet rituel, du cannibalisme, de ce dont on a parlé la dernière fois avec Totem et Tabou. C'est aux antipodes, cette science-là, disons-le comme ça, de la proposition du roman mythologique dont il nous entretenait. Souvenez-vous, ce sont les expressions mêmes de Freud. Eh bien, de 1895 jusqu'à 1939, vous avez effectivement le développement de la métapsychologie, mais en même temps, ce texte dont je vous parlais tout à l'heure, l'analyse avec fin et l'analyse sans fin, un texte avec lequel je conclurai l'année, vous verrez, et dans lequel Freud nous fait savoir que peut-être un jour, on soignera toutes les psychopathologies avec de la chimie, et qu'on découvrira qu'avec quelques substances bien trouvées, en agissant sur les neurotransmetteurs, tu n'utilises pas ce vocabulaire-là, mais enfin, en agissant correctement sur les neurotransmetteurs, eh bien, on pourra guérir les pathologies nerveuses ou les psychopathologies. Et Freud fait savoir qu'à partir de ce moment-là, évidemment, la psychanalyse deviendrait complètement caduque. Mais c'est un vieux monsieur qui est à quelques mois de la mort et qui, d'une certaine manière, prend date sur l'éternité en disant « retour de l'histoire ». Lui qui a nié l'histoire en permanence parce que, à l'évidence, la métapsychologie ne vit que de négation d'histoire, eh bien, le retour du refoulé réapparaît dans la vie de Freud qui nous fait savoir que peut-être un jour, la psychanalyse sera dépassée. En attendant, nous dit-il, il parie pour ce que moi j'appelle le corps glorieux, c'est-à-dire c'est un pari sur la métapsychologie, et il va postuler, et on verra qu'il n'y a que du postulat chez Freud, il va postuler un monde où les corps existent moins que les inconscients qui les font exister. Eh bien, on aura l'occasion de voir ce qu'est cette métapsychologie à partir des séances suivantes. Merci beaucoup. Donc cette fameuse esquisse d'une psychologie scientifique, elle se trouve, comme je vous le disais tout à l'heure, publiée dans les lettres à Fliss, puisque c'est un manuscrit que Freud envoie à son ami et qu'il n'a jamais été publié. Donc la première édition française complète, c'est celle-ci, Lettre à William Fliss, 2006. Et c'est dans cet ouvrage que vous avez un certain nombre de manuscrits envoyés par Freud à son ami, dont cette fameuse esquisse d'une psychologie scientifique. Je vous ai parlé d'Hippolyte Bernheim en vous disant qu'il avait été traduit par Freud, en allemand donc. Je renvoie à Hypnotisme, Suggestion et Psychothérapie, un volume que Fayard, le Corpus, qui est une très belle initiative française, sous la direction de Michel Serres, de la réédition d'ouvrages majeurs de la philosophie française. Je renvoie aussi à James Braid, qui est quelqu'un dont on ne connaît pas trop l'existence, et pourtant c'est lui qui est à l'origine du mot hypnose. Et l'Harmattan a publié Hypnose ou traité du sommeil nerveux. C'est intéressant de voir comment cet homme, qui est né en 1795 et qui est mort en 1860, comment il a théorisé, pensé cette question de l'hypnose qui a été considérable un temps. Le texte de l'essai sur l'hystérie dont j'ai eu l'occasion de vous parler est publié dans le volume 3 des œuvres complètes. Et le fameux psychrophore, vous ne le trouverez que dans la correspondance de Freud avec Binswanger, qui a été publiée chez Kalman-Lévy. Et puis j'ai eu l'occasion de parler de ce beau livre, qui est assez drôle et triste en même temps, de Pierre Morel et de Claude Quettel, qui est un universitaire de Caen, « Les médecines de la folie ». Et de fait, on découvre comment des médecines de la folie, enfin des médecines qui sont censées soigner la folie, sont des médecines folles elles-mêmes. Alors je laisse en suspens cette idée, qui est le plus fou du psychanalyste ou du psychanalysé, mais ce qui est intéressant, c'est quand on est dans une perspective non pas légendaire mais historique, c'est de se dire qu'il nous faudrait être capable de penser notre médecine aujourd'hui avec le regard de quelqu'un qui aurait un siècle de plus. Il faut penser en termes d'histoire, en historien, en sachant qu'on est dans un mouvement et qu'on n'échappe pas à une dialectique, que le moment freudien est un moment dans l'histoire et qu'il a toute son utilité. On conclura l'année là-dessus en disant qu'évidemment il ne s'agit pas de tout jeter ou tout brûler, mais qu'il a eu son moment d'utilité, mais que le temps est venu de passer assez probablement à autre chose. Voilà. Cherchez ce livre parce que je crois savoir qu'il est introuvable aujourd'hui, mais sur Internet on le retrouve. Les médecines de la folie, Pierre Morel, Claude Quettel. Voilà pour la biblio.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur au Centre dramatique national de Normandie, Michael Migne. Prise de son, Pascal René. France Bleu Basse-Normandie. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Véronique Villa. Demain, les questions des auditeurs du CDN de Normandie à Michel Onfray.